protéger les vivants. Épisode 2.
Protéger la biodiversité est une question d'attention aux autres formes de vie, comme les insectes. Et cela commence par le plus simple des gestes, observer ce qui nous entoure. C'est le credo de Laurent Chabrol du Centre permanent d'initiative de la Corrèze. Botaniste et entomologiste, il fait partie de ces sentinelles de la biodiversité, toujours en recherche d'un compromis entre activités humaines et protection des insectes dont les populations sont en grande fragilité, y compris ici, sur le territoire d'Argentat et de Xaintrie. Vous faites partie d'un cercle restreint, celui des entomologistes. Vous n'êtes pas très nombreux, je crois.
Non, on n'est pas trop nombreux, effectivement. On doit être allé à tout casser 1000, 2000 personnes grand maximum, alors qu'on a 37 000 espèces d'insectes à étudier. C'est très peu. Et on a surtout des gens qui travaillent, des entomologistes qui sont surtout spécialisés. C'est normal, hein, quand il y a un grand nombre d'espèces, on est obligé. Mais on a beaucoup de personnes sur les papillons, les libellules, les sauterelles, qui sont déjà bien bien connus. Par contre, on manque beaucoup d'entomologistes sur d'autres groupes qui sont complètement inconnus. Depuis le 19e, on n'a quasiment aucune information. Il y a des groupes qui sont étudiés de fond en comble.
Comme quoi, par exemple ?
Des micro-mouches, des micro-guêpes, voilà, qui participent aussi, qui sont des éléments importants de la biodiversité, hein, servent d'alimentation, ils servent à polliniser, voilà, il y a un rôle qui est important de toutes ces petites espèces qu'on néglige un peu parce que elles ont toutes la même allure, elles sont quelquefois gênantes, je pense aux moustiques, mais voilà, il y a une diversité aussi importante chez les moustiques.
On est sur Argentat, sur la réserve de biodiversité et sur le secteur de Xaintrie. Dans ce lieu, ou pas très loin, dans Argentat, il y a un personnage illustre pour l'entomologie, c'est Joseph Vachal. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur lui ?
Oui, Joseph Vachal. Donc c'est un personnage qui a vécu à la fin du 19e, début 20e, qui avait une activité politique importante. Donc il a été maire, conseiller général, il a été député également. Mais aussi, il était entomologiste. C'est une personne qui a travaillé beaucoup sur les espèces d'abeilles tropicales. Il n'a pas voyagé, il n'est pas allé collecter les espèces, mais on lui envoyait des spécialistes du monde entier, lui envoyait des espèces qu'il ne connaissait pas. Et donc lui, depuis Argentat, il a décrit ces espèces, il a décrit la forme, les couleurs. Alors il ne pouvait pas décrire l'écologie parce qu'il avait des spécimens morts, mais au moins voilà, on pouvait mettre un nom sur ces espèces et il en a décrit plusieurs centaines de mémoire. Je pense que c'est au moins 300 espèces.
Il y a des insectes, des abeilles qui portent son nom ?
Oui. Il y a des espèces. Je sais qu'il y a une petite abeille endémique de Nouvelle-Calédonie qui s'appelle Vachali. Voilà, donc il y a plusieurs dizaines d'espèces qui ont le nom de Vachal en mémoire du tout le travail qu'il a pu réaliser.
Et je crois que même la famille, ici, était plus ou moins au courant de sa notoriété et de son importance dans le monde de l'entomologie.
Ouais, sa famille qu'on a rencontrée à l'occasion d'une conférence qu'on avait faite avec Nuage Vert à Argentat, donc on les a rencontrés. Il savait que l'arrière-grand-père s'intéressait aux insectes, mais bon, il pensait que c'était juste un collectionneur, il ne connaissait pas vraiment tout, il ne savait pas trop tout le travail qu'il a pu réaliser et tout ce qu'il a apporté à l'entomologie.
Quel est le lien entre les pollinisateurs, qu'ils soient abeilles, bourdons, guêpes, papillons et même frelons, quel est le lien entre ces insectes et les plantes ?
Voilà. Eh ben, le lien, c'est la fleur. La fleur qui a, pour la plupart, toutes les plantes ne sont pas nectarifères, ne sont pas visitées par les abeilles, mais toutes les espèces qui ont, les espèces de plantes qui ont des corolles souvent très vives, ont à la base de ces corolles des glandes qui fabriquent du nectar, donc des glandes nectarifères. Et c'est ce que viennent chercher les abeilles. Viennent chercher donc du nectar pour nourrir leur descendance. Elles vont confectionner une petite boule de nectar qu'elles vont aller enterrer avec les œufs qu'elles vont pondre pour que les larves puissent trouver de la nourriture dès qu'elles sortent de l'œuf.
On voit dans les jardins autour d'Argenta et même dans Argenta parfois des espèces de petites prairies fleuries, des fleurs un peu exotiques qu'on achète en sachet dans le commerce. Est-ce que c'est une bonne nourriture pour les abeilles et les pollinisateurs?
Je serais tenté de dire moyennement ou non carrément, parce que en fait c'est des espèces de plantes qui ont été sélectionnées pour leur aspect esthétique essentiellement, qu'elles soient attrayantes à l'œil pour l'humain, mais dans les critères de sélection on n'a jamais pris en compte les besoins de l'abeille. Donc c'est des espèces qui vont avoir double corolle par exemple, donc le double corolle ça veut dire deux fois moins de nectar, donc deux fois moins de nectar, et donc les abeilles vont être obligées de butiner beaucoup plus de plantes pour trouver la même quantité de nectar. Donc ça consomme en énergie. Et puis pas mal de plantes, c'est des plantes que les abeilles locales ne connaissent pas, des espèces exotiques comme les cosmos, les pavots de Californie, qui sont très très peu fréquentées par les abeilles locales. Donc il vaut mieux éviter ce genre de sachets, même s'il y a pléthore d'annonces favorisant, indiquant que c'est bon pour les abeilles, les papillons, les pollinisateurs, etc. Regardez le contenu de ces sachets. Et puis sélectionner plutôt les sachets qui ont des espèces locales. Il y a des centaurées, par exemple. Là, on voit depuis la cabane, on voit des salicaires au bord de l'eau. Il y a plein de choses, des lysimaques, des carottes. Ça, c'est des plantes qui ont coévolué avec les abeilles depuis des millénaires. Et donc, il y a des relations très, très fortes entre ces abeilles et cette plante et cette fleur sauvage.
Il y a d'autres gestes que l'on pourrait faire pour aider ou pour protéger ces pollinisateurs?
Oui, on pourrait éviter aussi d'installer ces fameux hôtels à insectes qu'on voit un petit peu partout. Ces hôtels à insectes, en fait, c'est pas avec cet outil qu'on sauvera les abeilles. C'est un outil pédagogique avant tout, pour montrer aux enfants dans les écoles comment vivent les abeilles. Et puis l'autre point un peu néfaste de ces installations, c'est qu'on a une abeille qui vient de Chine, l'abeille noire de Chine, qui est arrivée dans le secteur de Brive il y a quelques années, et qui se reproduit, qui niche essentiellement dans ces hôtels à insectes, dans les grosses tiges de bambou de plus de 8000 mètres de diamètre. C'est une abeille qui déloge les abeilles locales qui sont déjà installées. Donc c'est une grosse abeille avec des mandibules super puissantes. Donc elle va chercher les abeilles, leur ponte, et elle les déloge et elle s'installe à leur place.
On en est où des pollinisateurs et du comptage des pollinisateurs, des populations sur le secteur Argenta-Xaintrée?
Alors j'ai tenté de dire qu'on ne connaît pas grand-chose, on n'a pas beaucoup de recul. On a certes les inventaires de Joseph Vachal, mais qui ne concernaient pas forcément les abeilles locales, plutôt sur les guêpes aussi. On a des inventaires, mais qui sont tout récents, qui datent de 2-3 ans. Le travail d'inventaire des abeilles en Corrèze et comme en Limousin est à son tout début. Donc le recul, on n'en a pas trop. Mais bon, on peut penser que ce qui s'est passé dans les départements voisins se passe aussi en Corrèze. Donc on a des abeilles qui paient un lourd tribut, hein, notamment les pesticides, bien sûr, des aménagements avec des plantes qui ne sont pas toujours adaptées à leurs besoins. Des fauches dans les jardins qui sont trop intensives. Hein. On voit souvent des jardins avec des pelouses qu'on du très rare, donc il n'y a pas de fleurs. Donc s'il n'y a pas de fleurs, il n'y a pas de secret, hein. Pas de fleurs, pas d'abeilles. Hein, c'est ce que je dis souvent. Donc il faut laisser des zones où la nature peut évoluer tranquillement, naturellement, que les abeilles puissent suivre le cycle des fleurs pour essayer de les préserver. C'est essayer d'être moins interventionniste dans nos jardins.
Laisser des endroits en friche, des plantes particulières qu'il faut garder.
Voilà, ça peut être des plantes. On a une opération au CPU qui s'appelle Un carré pour la biodiversité. Donc c'est une opération qui vise à garder une surface. Alors c'est pas vraiment un carré, la forme carrée, hein, c'est une zone surtout, dans laquelle on laisse la végétation évoluer. On la tond qu'une fois par an, à l'automne, quand toutes les fleurs sont fanées et que les abeilles sont entrées en hivernation. Donc voilà, c'est des petites opérations comme ça, ponctuelles, qui paraissent anecdotiques, mais si tout le monde s'y met, on a vraiment un impact sur la préservation des abeilles par ces petits carrés de biodiversité qu'on va essayer de multiplier.
Il y a une autre action, je crois, qui s'appelle Pollinisateur, que vous avez mis en place.
Oui, alors Pollinisateur, c'est un programme qui a regroupé une dizaine de CPIE dans la région du Massif central. Donc on a participé, comme nos collègues voisins du CPI de la Creuse, et on a choisi comme site d'étude les gravières d'Argenta. Donc cette étude consistait à faire déjà des inventaires d'abeilles, puisqu'on est vraiment en retard, on a très peu de connaissances sur ce groupe. Et puis, on a, en plus de ces inventaires, on a essayé de trouver des communes volontaires pour essayer d'aller un petit peu plus loin dans la gestion des espaces verts communaux, mais aussi dans les jardins. Et cette action, a été réalisée avec la commune de Naves, qui est à côté de Tulle, qui mène en ce moment un atlas de la biodiversité communale. Et on a fait des évaluations dans les parcs et jardins de la ville. Avec le public, on a vu, ben voilà, quel type de fleurs étaient présentes, est-ce qu'il y avait des fleurs locales, est-ce que l'herbe n'était pas tondue trop souvent. Voilà, on a passé au crible, on a passé une après-midi avec tout un petit formulaire et tout un tas de questions, et on a fait une espèce d'audit de ce qui se passait dans les parcs. Donc on a remis ça ensuite sur papier. On a construit donc ce plan d'action qu'on a diffusé ensuite à la mairie, et là c'est en train d'être diffusé auprès de la population.
Il y a des communes ici qui seraient intéressées ou qui participent à cela?
Je pense que la commune d'Argenta, qui pourrait être intéressée avec son label apicité, hein, puisque dans le label, je crois qu'il y a un volet qui concerne les abeilles sauvages. Donc c'est quelque chose qui pourrait être multiplié. Oui, il y a des communes qui pourraient être intéressées et nous demander qu'on intervienne sur ce sujet.
Quels espoirs vous formulez pour l'avenir?
Oh, ben ça va être assez simple, hein. On a constaté pendant le Covid que la nature, enfin notamment pendant le confinement, que la nature se portait bien. Elle était en bon état parce que ben il n'y avait pas trop de monde dehors. Donc essayer d'être le moins interventionniste possible. Hein. Je pense que la nature elle peut très bien se débrouiller sans nous. Elle a fait ça pendant des millions d'années avant que l'homme commence à intervenir vraiment dans la nature. Voilà, ce serait mon souhait, c'est qu'elle soit un petit peu moins interventionniste, avec un peu moins de matériel et de moins de choses systématiques. Je pense surtout à la tonte dans les jardins. Voilà, c'est quelque chose dont on peut espacer au moins les périodes de tonte pour laisser les fleurs fleurir.
On peut aller visiter un espace naturel et se rendre compte de la richesse des insectes présents sur les sites.
Il faut ouvrir les yeux. Trop souvent, on traverse des paysages où on regarde au loin, on regarde rarement à ses pieds les fleurs qui sont à côté de nous. Voilà, il faut ouvrir les yeux sur ce qui est tout proche. J'étais hier dans la vallée de la Dordogne, là, vers Ligignac, pour chercher un très beau capricorne bleu avec des taches noires qui s'appelle la Rosalie. Et j'ai croisé plusieurs personnes, je leur demandais s'ils avaient vu. Ils disaient, ah non, mais on ne regarde jamais au pied. Effectivement, il y en avait ce beau capricorne qui était quasi à nos pieds, à quelques centimètres. Donc ils l'ont découvert. Voilà. Il faut essayer, il faut réouvrir les yeux et puis regarder, être curieux. Curieux et observer. Voilà, on a plein de fleurs. Il faut regarder qui vient se poser sur cette fleur, ce qu'elle fait, voir quelles sont les espèces qui mangent les feuilles. On voit plein de traces sur les feuilles, des traces de grignotage. Et ben, voilà, si on est un petit peu curieux, on attend un petit peu. Et puis on voit qui est l'auteur de ces grignotages. C'est souvent un petit scarabée ou une petite guêpe.
On va aller voir ça.
Oui, d'accord.
Allez, en avant.
Voilà, ça par exemple, c'est une vipérine. C'est une... Bon, là, elle est un petit peu... elle est sèche, il n'y a plus beaucoup de plantes. Mais tiens, par exemple, voilà. Ici, sur le sable, on a cette espèce de guêpe qui est en train de courir. Voilà, ça, c'est une guêpe, un ammophile qui va creuser le sol pour aller pondre et qui va aller chercher des proies, d'autres insectes qu'elle va enfouir dans son terrier pour nourrir ses larves. Ça, c'est des insectes qu'on va voir très, très souvent sur les terrains comme ici, les terrains sableux avec des petits galets. Elles adorent ça. Voilà, là, on va regarder d'autres choses. Voilà, les vipérines, donc c'est des plantes qui sont très intéressantes, hein, avec des corolles qui sont un petit peu longues. Donc, ça va sélectionner les pollinisateurs. Hein. Seuls les pollinisateurs avec une langue longue vont polliniser, vont fréquenter ces fleurs. Parce que chez les abeilles, on a deux types d'abeilles. On a les abeilles qui ont des langues courtes. Bah tiens, voilà, un bourdon, un très bon bourdon, là, roux, qui est en train de polliniser. Et voilà, il passe de fleur en fleur sur la vipérine. Voilà. Et puis là, il y a une toute petite. Mmh. Ouais, elle est passée furtivement, là, toute noire brillante. Ça, c'est un Ileus. Ça, c'est une petite abeille qui va faire son nid dans les tiges creuses de ronces. Voilà. Donc pour venir à mes fleurs, on a des fleurs, des abeilles qui vont polliniser les plantes avec des corolles assez, assez profondes, donc c'est des abeilles à langue longue, et les abeilles avec des langues courtes vont polliniser les fleurs qui ont des corolles courtes. Voilà, c'est pour ça qu'il faut dans son jardin, par exemple, voilà, les corolles courtes, c'est les fleurs de carottes qui sont fréquentées par pas mal d'espèces, et là il n'y a pas besoin d'avoir une langue longue pour avoir accès au nectar. Voilà, tout est accessible. Voilà. Donc il faut bien avoir en tête, bien faire ce mélange dans nos jardins de plantes à corolles longues et courtes. Hop, ça c'est un papillon. Donc là il y a des papillons aussi. Donc les papillons participent, en fait, tous les insectes qui ont un pelage plus ou moins dense sur leur corps participent à la pollinisation. Parce que sur le pelage, donc il y a une électricité statique, hein, qui fait que les grains de pollen restent fixés. Donc les insectes à pelage, donc les bourdons, les abeilles, les papillons, certains coléoptères, voilà, sont des insectes qui vont participer à la pollinisation en transportant les grains de pollen d'une fleur à l'autre. Là, il y a une petite abeille qui cherche... Non, ça lui plaît pas, elle repart. Ah non, c'est une petite... c'est une mouche, un cirfe. Donc voilà, donc les mouches aussi sont utiles à la pollinisation. Trop souvent, on entend dire que les gens, pour combattre les guêpes ou les frelons, font des espèces de pots de pièges avec une bouteille renversée. Et j'ai analysé le contenu d'un de ces pièges dernièrement. En frelons, alors j'avais deux frelons européens, zéro asiatique, alors que c'était initialement prévu pour. De mémoire, 800 mouches. Pourtant, c'est un piège qui était resté en place 4 jours seulement. Une vingtaine de papillons. Voilà, donc c'est un piège qui était mis en place pour le frelon asiatique. Donc au bilan, zéro frelon asiatique et près de 1000 autres espèces d'insectes tuées.
Ce qui est relativement dramatique pour la biodiversité.
Oui, c'est multiplié un petit peu partout. Voilà. Alors, comme ce sont des mouches, eh ben, pour la plupart des gens, c'est négligeable. Non, les mouches participent aussi à la pollinisation. Elles participent à l'alimentation des oiseaux. Toutes les petits moustiques sont mangés par les hirondelles, par tout un tas d'oiseaux. Donc les mouches sont au moins aussi utiles que les libellules.
Que faire alors pour lutter contre ceux qu'on appelle les envahisseurs, les frelons asiatiques et autres guêpes chinoises?
Alors, ce qu'il faut, c'est être très vigilant, surveiller. Dès que ces espèces arrivent, il faut essayer d'intervenir. Il faut éviter ce qui s'est passé pour le frelon asiatique, où il est arrivé dans le Tarn-et-Garonne, je crois, de mémoire. Puis on a regardé sa progression petit à petit sans rien faire. Et puis donc maintenant, la situation est complètement ingérable. on n'arrivera jamais à éradiquer le frelon asiatique. Bon, alors maintenant, il y a certaines espèces qui commencent à le consommer. Je ne sais pas si la bondrée apivore, qui est un oiseau qui mange pas mal de guêpes et de frelons, commence à s'en nourrir. Mais voilà, ça va rentrer dans le régime alimentaire de pas mal d'autres prédateurs, ce qui n'était pas le cas à son tout début. C'est comme la pyrale du buis, par exemple, qui est un petit papillon qui vient de Chine, qui au début faisait des pullulations assez spectaculaires. Et depuis quelques années, on s'aperçoit que tous les petits oiseaux, genre mésanges ou autres, consomment les chenilles de ces pyrales. Et ça a contribué, pas à la disparition, mais à la régression de ces espèces.
Donc l'écosystème se rééquilibre de lui-même.
Oui, ça se rééquilibrera. Le souci, c'est que ces espèces arrivent massivement. Il y a des apports quasiment chaque année de ces nouvelles espèces. Donc il y a un temps de décalage, un temps d'adaptation qui fait qu'entre-temps, on peut perdre des espèces. On voit sur les plantes exotiques envahissantes. On a certaines populations de plantes rares ou protégées sont menacées par la prolifération de ces espèces. Je pense aux herbiers massifs de renouées qui colonisent les bords de rivières. Il peut y avoir des disparitions d'espèces. Ou certaines plantes comme les jussies ou les myriophiles. On a déjà des cas d'espèces rares et protégées dans notre région, comme les utriculaires ou certaines petites fougères primitives qu'on appelle les pilulaires. Ces espèces, on commence à voir des stations où ces espèces ont disparu sous la pression de ces espèces exotiques. Donc il faut être très très vigilant et surtout intervenir le plus tôt possible. Donc il y a une stratégie nationale qui a été validée il y a quelques années. Et donc dans cette stratégie, il est prévu de laisser tranquille les espèces présentes massivement depuis très longtemps, comme les renouées, on fera pas grand-chose. En revanche, toutes les espèces nouvellement arrivées, qu'on appelle les émergentes, intervenir tout de suite pour éviter de renouveler les erreurs qu'on a pu faire par le passé.
Le pays argentacois et l'axintrie recèlent de trésors de biodiversité, comme sur le site des anciennes gravières d'Argenta. Les insectes en sont d'ailleurs l'un des plus précieux. Et il suffit de quelques gestes pour les protéger. Toute l'année, Laurent Chabrol et le CPIE de Corrèze organisent des actions de sensibilisation et des animations pour les plus jeunes, ainsi que des sorties nature pour toute la famille. Retrouvez toutes les informations sur le CPIE de Corrèze en tapant CPIE de la Corrèze dans la barre de recherche de Facebook. Ils ont une page. Vous pouvez aussi réécouter ce podcast en intégralité sur acx-19.fr.